Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans ce dernier traité de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc nous en sommes dans la partie sur le supplément, donc questions 69 à 99, le traité de novissimis ou des fins dernières. Et nous en sommes à la question 74 qui traite de la conflagration de l'univers à la fin des temps. Et saint Thomas va commencer à parler un petit peu des signes de cette fin des temps. Alors là, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, de ne pas dire des bêtises sur ce sujet. L'Église n'a jamais donné de date pour la fin des temps. L'Église n'a jamais enseigné que nous sommes actuellement à la fin des temps. Nous sommes peut-être à la fin d'un temps, mais est-ce que nous sommes à la fin des temps? J'en sais strictement rien. Et bien malin, celui qui peut dire avec certitude qu'on est au proche de la fin du monde, on n'en sait rien. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin sur ce sujet intéressant. Donc il y a 9 articles dans cette question 74. Il va d'abord se poser la question de savoir si le monde va être purifié. Et de quelle purification en fait s'agit-il? Donc il dit ceci, il cite l'Écriture sainte, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc il est certain qu'il va y avoir, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, il va y avoir une conflagration universelle. La figure de ce monde passe, la beauté de ce monde périra dans la conflagration universelle. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses dans cette phrase de saint Paul, la figure de ce monde passe. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Les pères de l'Église ne sont pas entièrement d'accord entre eux sur ce sujet. Par exemple, est-ce que cette purification qui se fera à la fin des temps, la fin du monde, est-ce qu'elle se fera par le feu? Donc saint Thomas cite saint Pierre, les cieux enflammés se dissoudront, pardon, et les éléments embrasés se fondront. D'autre part, à la fin du monde, devenu vieux, pour ainsi dire, le grand péché, ce sera la tiédeur. Donc la charité d'un grand nombre se refroidira. Il convient donc, allégoriquement parlant, qu'il soit purifié par le feu. Donc il semble, d'après saint Thomas d'Aquin, qu'il y aura une purification par le feu. Alors je passe sur les choses qui sont pas très importantes pour m'attacher aux phrases clés. Donc la dernière purification de l'univers par le feu correspond à la première, à celle du déluge qui s'accomplit par l'eau, qui était de la même nature que la nôtre. Ce sera donc de même du feu purificateur. La figure de ce monde périra par la conflagration des feux de l'univers. Et de même que au moment du déluge, beaucoup de gens pensaient que c'était la fin du monde qui arrivait. Et pourtant, ce ne fut pas la fin du monde. Puisque simplement les habitants, les gens qui avaient trouvé refuge dans l'arche de Noé, donc Noé, son épouse et ses 3 enfants, Sem, Cam et Japhet, leurs épouses, donc 8 personnes seulement, se sont sauvées dans l'arche, qui ne veut pas dire que tous les hommes qui ont perdu la vie à ce moment-là, qui sont morts noyés dans les eaux du déluge, sont tous tombés en enfer. Attention, l'Église n'a jamais enseigné cela. Il y a certainement eu des gens qui, en voyant les déluges, les eaux du ciel ouvertes comme ça, en voyant que l'eau montait, peut-être trouver le temps de demander pardon à mon Dieu pour leurs péchés. Ils se sont convertis avant de mourir. C'est possible, on n'en sait rien. Les pères de l'Église en ont peu parlé, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, ce feu, dit saint Thomas, va purifier complètement le monde. Voilà ce qu'il dit. La purification des corps célestes ne se fera donc ni par le feu, ni par quelque autre créature, mais par un arrêt de leur mouvement causé par la seule volonté divine. Donc vraisemblablement, il y aura une purification de la terre par le feu, c'est ce que pense saint Thomas d'Aquin. Et les étoiles, le soleil, la lune, arrêteront leur mouvement. Donc encore une fois, là-dessus, il n'y a pas d'enseignement infaillible de l'Église. L'Église reste, si vous voulez, très prudente dans ce domaine parce qu'il n'y a pas de choses certaines. Alors, dans quelles conditions va se faire cette conflagration, on ne sait pas. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Je vous donne encore une phrase de lui. Les éléments conserveront leur substance et leur qualité propre, mais seront purifiés des souillures qu'ils ont contractées par les péchés des hommes et de l'impureté consécutive à leurs actions et réactions mutuelles. Donc il y aura le feu qui va consumer tous les éléments, en de ce sens qu'il purifiera. Donc il y aura une purification par le feu. Le feu, dit saint Thomas, il va répéter plusieurs fois la même chose, consumera donc tous les éléments du monde. Cette purification aura surtout pour but d'éloigner toute imperfection de la demeure des élus. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si cette dernière conflagration suivra le jugement général à la fin des temps. Je vous l'ai déjà expliqué, donc l'enseignement de l'Église est clair sur le sujet. Il y aura deux jugements. Un jugement particulier pour chacun d'entre nous au moment de la mort personnelle, au moment de la séparation entre notre corps et notre âme, et un deuxième jugement à la fin des temps, qui aura lieu vraisemblablement à l'endroit précis où notre Seigneur Jésus-Christ a été publiquement méprisé et vilipendé, donc dans la vallée de Josaphat à Jérusalem. Donc, saint Augustin, cité par saint Thomas, explique quels sont les signes qui doivent arriver à ce jugement, ou proche du jugement. Voilà les signes qu'il donne. L'arrivée d'Élie, la résurrection d'Élie. En fait, Élie n'est pas mort. Encore une fois, là, c'est un grand mystère. Où est passé Élie? On ne sait pas. Il n'est pas au ciel, ni au purgatoire. Il est dans un lieu où il attend la fin des temps, parce qu'il reviendrait à la fin des temps, justement, pour se battre contre, lutter contre l'Antéchrist. Donc, voilà les signes. D'après saint Augustin, de cette dernière conflagration, la fin des temps, donc l'arrivée d'Élie, la conversion des Juifs, ça c'est très important parce que ce signe, on n'en voit pas du tout là, le début aujourd'hui. C'est pour cela que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'actuellement on est très proche de la fin du monde parce que justement il manque ce signe. Donc l'arrivée d'Élie, la conversion des Juifs, la persécution de l'Antéchrist. Là encore une fois, beaucoup de gens disent « mais les Antéchrists sont, l'Antéchrist est là ». On n'en sait strictement rien. J'ai entendu des gens qui disent « mais Bergoglio, c'est l'Antéchrist ». C'est possible, mais il faut le prouver. Et comme on ne peut pas le prouver, eh bien il faut se garder, à mon avis, de dire des choses de ce genre sans preuve aucune. Donc je reprends les signes, l'arrivée d'Élie, la conversion des Juifs, la persécution d'Antéchrist, le jugement du Christ, la résurrection des morts, la séparation des bons et des méchants, l'embrasement du monde et son renouvellement après cette purification par le feu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et même 8 signes. Premier signe, l'arrivée d'Élie. Deuxième signe, conversion des Juifs. Troisième signe, persécution d'Antéchrist. Quatrième signe, le jugement du Christ. Cinquième signe, la résurrection des morts. Sixième signe, la séparation des bons et des méchants. Septième signe, l'embrasement du monde. Et huitième signe, le renouvellement du monde après cet embrasement. Alors, on voit très bien que dans cette liste de signes donnée par saint Augustin, en fait, saint Augustin mélange ensemble la fin des temps et le jugement. Bon, c'est sûr que l'Église a toujours enseigné, par contre, ça c'est l'enseignement de l'Église, que le jugement général aura lieu au moment de la fin du monde. Bon, alors est-ce que cet embrasement va avoir lieu en même temps, ou avant, ou après, on ne sait pas très bien. Ça, l'Église ne s'est pas prononcée sur ce sujet, donc ne mélangeons pas tout. Saint Thomas précise que la conflagration qui doit préparer cette rénovation aura donc son premier effet, à savoir la purification de l'univers, lui pense avant le jugement. C'est ensuite seulement qu'elle aura son second effet, l'engloutissement des méchants dans l'enfer. Alors, dans son action préliminaire au jugement, le feu de la conflagration universelle agira à la fois conformément à sa nature propre et comme instrument de la justice divine. Après le jugement, ce feu n'agira que sur les réprouvés, car tous les élus auront à ce moment-là trouvé un corps glorieux et donc auront des corps impassibles. Un des privilèges des corps glorieux, c'est l'impassibilité, l'absence de souffrance. Ensuite, saint Thomas va préciser certaines choses, disant « Il y a trois raisons pour lesquelles les hommes que le feu trouvera vivants pourront être purifiés en un instant. Les terreurs et les persécutions des derniers temps auront effacé déjà en grande partie leurs souillures. Ils subiront aussi leur peine volontairement, et en ce monde où la douleur acceptée est beaucoup plus efficace que les châtiments d'outre-tombe. » Comme saint Augustin le dit des martyrs, chez qui le tranchant de leur supplice a enlevé ce qui avait à émonder. Enfin, une troisième raison, ce feu gagnera en intensité ce qu'il perdra en durée. Beaucoup de gens aussi se posent la question de savoir, mais les gens qui seront encore vivants au moment de la fin du monde, est-ce qu'ils vont passer par le purgatoire ? Mais il semble que non, puisque le purgatoire va vraisemblablement disparaître au moment de la fin du monde. Donc il y aura une purification de tous les gens qui ont besoin de passer par le purgatoire, qui sera opérée précisément par cette grande conflagration, qui sera une conflagration par le feu, mais pas seulement ça aussi, une conflagration psychologique, une conflagration, une purification spirituelle. Et on ne sait pas exactement dans quel sens cela va s'effectuer, on ne sait pas. Alors, il y aura à ce moment-là le feu qui purifiera la terre et qui va engloutir tous les réprouvés. Donc il y aura une séparation entre les brebis et les boucs, les brebis à la droite, les boucs à la gauche de Dieu. Les boucs représentent les damnés et les brebis les sauvés, les élus du ciel. Donc sa main, la main du Christ, tiendra le van, il nettoiera son air, il amassera le froment dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est le feu de l'enfer qui est un feu qui ne s'éteint pas. Alors, il cite aussi saint Basile, qui explique que ce feu, ces matières grossières et brûlantes, descendront en enfer pour le supplice des damnés. Au contraire, les parties pures et lumineuses du feu serviront à la gloire des élus dans les régions supérieures de la création. Alors vous voyez que saint Thomas d'Aquin est prudent dans son jugement, donc quand il est sûr de certaines choses, ou quand certains de ses enseignements suivent la foi catholique, il le dit. Quand il n'est pas sûr, eh bien, il y a un certain vide, si vous voulez, dans les explications que donne saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin, encore une fois, attention, était le plus grand des docteurs de l'Église, le plus grand des philosophes et des théologiens catholiques, mais il n'est pas infaillible comme le pape quand il parle ex cathedra. Alors voyons maintenant la question 75 qui va couvrir la résurrection. Donc, la résurrection des corps doit-elle avoir lieu et dans quelles conditions ? Donc il cite le livre de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je me relèverai de la terre et de nouveau, je serai recouvert de ma peau. Il y aura donc une résurrection des corps. Chaque corps va ressusciter d'entre les morts, mystérieusement, miraculeusement, parce qu'il y a des corps qui ont été détruits, qui sont petits morceaux, parce qu'ils ont été détruits par les explosions, détruits par le feu, détruits par les guerres, etc. Eh bien, Dieu qui est Dieu peut tout faire et donc va reconstituer tous les corps
de chaque personne qui a vécu sur cette terre, et chaque corps va s'associer de nouveau à son âme. Donc les corps, la plupart des corps sont dans les cimetières, donc même les corps qui sont passés en poussière, donc se reconstitueront et seront unis à l'âme qui leur correspond. Il y aura donc une résurrection des corps et l'union de ces corps avec l'âme. C'est pour ça qu'il y a résurrection. Résurrection dit retrouvaille entre le corps et l'âme. Donc, puisque l'homme ne peut trouver le bonheur en cette vie, il est nécessaire, dit saint Thomas, d'affirmer la résurrection générale à la fin des temps. Alors, la mort corporelle, dit saint Thomas, est la conséquence du péché d'Adam qui fut effacé par la mort du Christ. Donc, cette mort corporelle doit disparaître elle aussi, tandis que la mort spirituelle est la conséquence d'un péché dont on ne s'est pas repenti et dont on ne pourra plus jamais se repentir. Il y aura donc la mort éternelle. Donc, rappelez-vous, j'ai expliqué ça souvent dans les sermons, qu'il y a trois sortes de mort. Il y a une mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'âme, nous passerons tous par celle-là. Ensuite, la mort spirituelle, qui est la destruction de l'état de grâce par le péché mortel. À chaque fois que nous commettons un péché mortel, il y a un meurtre, si vous voulez, nous tuons notre âme. Mais cette mort spirituelle n'est pas une mort définitive. La mort corporelle n'est pas définitive non plus, puisque à la fin des temps, il y aura une résurrection de tous ces morts. Mais la mort spirituelle, elle peut disparaître par un acte de contrition parfaite ou par tout simplement une bonne confession. Mais il y a également la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le passage du temps à l'éternité en état de péché mortel. Le pire, évidemment, c'est la mort éternelle. C'est très intéressant de voir, très triste en même temps, de voir que dans le monde moderne, il se préoccupe absolument, exclusivement de la mort physique, c'est-à-dire la moins importante, et se méprise totalement la mort spirituelle et la mort éternelle. Alors, tous ceux qui sont dans le tombeau entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Donc il y aura, dit saint Thomas, à la fin des temps, une résurrection générale qui correspondra, une résurrection générale qui précédera immédiatement le jugement général à la fin des temps. Aucune âme ne restera donc éternellement séparée de son corps. Il est donc nécessaire que tous les hommes ressuscitent. En cette vie, dit saint Thomas, c'est une phrase importante, les méchants comme les bons sont conformes au Christ par l'humanité, mais non par la grâce. Tous aussi lui seront conformés par la vie naturelle qui sera rendue à tous, mais les bons seuls lui ressembleront par la gloire. Donc il y a un passage de la nature à la grâce, à la gloire. Bon, la gloire est définitive uniquement pour les gens qui sont au ciel, hein. Ceux qui malheureusement meurent en état de péché mortel ne pourront jamais ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ par la gloire. Et donc ils seront à ce moment-là, ils deviendront littéralement les membres du corps mystique du démon, au lieu de devenir les membres du corps mystique du Christ. Alors la résurrection, attention, en tant que telle, précise saint Thomas, n'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'est quelque chose de contre-nature, c'est un miracle. La résurrection, le retour à la vie n'est pas naturel. C'est un miracle. Il n'existe aucun principe actif naturel de la résurrection, ni pour unir le corps à l'âme et l'âme, ni pour préparer cette union. Donc la résurrection est quelque chose de miraculeux, c'est un miracle. On ne peut l'appeler naturel que relativement à son terme. Mais la résurrection est donc quelque chose qui dépasse le pouvoir naturel de l'homme. Alors voyons un petit peu avec saint Thomas donc les causes de cette résurrection dans la question 76. Alors saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si la résurrection du Christ est la cause de la nôtre. Est-ce que la résurrection du Christ est la cause exemplaire de notre propre résurrection? Voilà ce qu'il dit. La résurrection corporelle du Christ le fait appeler les prémices de ceux qui dorment, le premier-né d'entre les morts. Sa résurrection sera donc la cause de celle des autres hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscitant d'entre les morts, peut provoquer la résurrection de tous les hommes. Le Christ est appelé ainsi le médiateur entier de Dieu et les hommes en vertu de sa nature humaine. Aussi est-ce par l'entremise de celle-ci que les dons de Dieu parviennent aux hommes. L'unique remède à la mort spirituelle, c'est la grâce donnée par Dieu, et l'unique remède à la mort corporelle, c'est la résurrection opérée par Dieu. Donc la résurrection est à la mort corporelle, ce que la conversion est à la mort spirituelle. Donc la grâce du bon Dieu va ramener la vie à une âme spirituellement morte, comme la résurrection va ramener une vie physique à un corps cliniquement mort. C'est ce que dit saint Thomas, ce qu'explique saint Thomas. Donc la résurrection même du Christ, homme-Dieu, est donc la cause instrumentale de la nôtre. Cause exemplaire de la nôtre. La résurrection du Christ a donc pour cause immédiate la divinité, qui n'est cause de la nôtre que par l'intermédiaire du Christ ressuscité. Quelque sorte, le Christ va nous toucher par l'intermédiaire de son humanité. C'est ça que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours unie à sa divinité. Même après la résurrection du Christ, la divinité du Christ était toujours unie au corps du Christ qui gisait dans le tombeau du vendredi saint au jour de Pâques. Il y a une union entre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et la divinité, union qui n'était pas détruite, qui ne fut pas détruite par la séparation entre le corps et l'âme. Donc l'âme du Christ qui est descendue aux enfers était unie à la divinité de Christ, de la même façon que son corps qui gisait dans le tombeau pour 3 jours était aussi uni à la divinité de Christ. Alors, au son de la trompette, c'est le texte de saint Paul, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, il y aura la résurrection de tous ceux qui sont morts hors du Christ, puis le jugement général. Alors, le Seigneur descendra du ciel à la voix de l'archange, et les morts ressusciteront, et Dieu se servira du ministère des anges pour tout ce qui regarde le monde matériel. De même qu'il s'en sert déjà aujourd'hui, il s'en servira aussi à la fin des temps. Or, la résurrection comporte quelque chose de matériel, à savoir la collection des cendres destinées à la reconstruction des corps humains, et Dieu en chargera ses anges. Donc, les anges provoqueront, par le pouvoir divin donné à eux par Dieu, la reformation de tous les corps de tous ceux qui sont passés sur la terre. Alors, comment va se passer cette résurrection? Donc, Saint Thomas va aussi étudier le temps et le mode de la résurrection. Donc, il se pose la question de savoir si cette résurrection doit être différée jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une résurrection de tous les hommes ensemble? C'est la question 77 du supplément. Voilà ce que dit saint Thomas. Tous les hommes doivent ressusciter ensemble à la fin du monde. Donc il y aura une résurrection générale. C'est ce qu'enseigne l'Église catholique. D'ailleurs, c'est en toutes lettres dans le credo. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de la chair, à la résurrection de la chair, à la rémission des péchés, résurrection de la chair, à la vie éternelle. Donc la résurrection de la chair précédera la vie éternelle pour tous les élus qui seront à ce moment-là tous au ciel. Les derniers élus rentreront au ciel juste après le jugement général. Il y a déjà actuellement des élus qui sont au ciel. Évidemment, mais n'y sont au ciel qu'avec leur âme. Au moment de la résurrection générale, les corps rejoindront les âmes, soit en enfer pour les damnés, soit au ciel pour les élus. Non, évidemment, ce sont des choses miraculeuses. Il faut la foi pour accepter tout cet enseignement. Alors, est-ce que le temps de la résurrection est-il caché? Si, en gros, c'est ce que le temps de la fin du monde est caché. Alors, saint Thomas va citer la réponse de notre Seigneur aux apôtres qui cherchaient à savoir le temps, la date de la fin du monde, et notre Seigneur Jésus-Christ de leur dire « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Beaucoup des apôtres étaient persuadés en leur temps, donc il y a plus de 2000 ans, que la fin du monde allait arriver rapidement. Ben, ils sont trompés, la fin du monde n'est toujours pas là. Alors, beaucoup de gens aussi aujourd'hui pensent qu'on est arrivé à la fin du monde, mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. On entend parfois des gens qui utilisent des apparitions non reconnues par l'Église pour prétendre cela, ou qui transforment les enseignements des apparitions reconnues par l'Église. J'ai entendu des gens me dire, monsieur l'abbé, à Fatima, la Très Sainte Vierge Marie a annoncé comme imminent la fin des temps. C'est faux. La Très Sainte Vierge Marie n'a jamais annoncé à Fatima la fin du monde. Bon, elle a dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera, mais elle n'a pas indiqué la date de cette fin. Aucune révélation donc n'est faite à ce sujet, donc c'est Sainte-Marie là qui parle, aucune révélation n'est faite donc à ce sujet du temps de la résurrection, du temps de la résurrection générale, la fin du monde, afin que tous les hommes se tiennent toujours prêts à paraître devant le souverain juge. Hein, c'est les pères qui font remarquer que si nous savions à l'avance le temps de notre mort et notre jugement par le bon Dieu, si nous connaissions aussi actuellement la date de la fin du monde, si nous connaissions tout simplement la date de notre mort, nous serions tentés, peut-être, eh bien, d'attendre le dernier moment pour nous convertir. Le bon Dieu nous a prévenus qu'il viendrait comme un voleur. Il viendra comme un voleur, et donc, puisqu'on sait qu'il va venir comme un voleur, il faudrait être prêt, parce que notre Seigneur Jésus-Christ peut venir quand il le désire, et à ce moment-là, il nous dira, viens et rencontre de ta gestion. Il ne faut pas dire au bon Dieu, mais écoutez, donnez-moi un peu de temps pour que j'aille me confesser. Non, c'est pour ça qu'il faut vivre habituellement l'état de grâce. Je vous ai déjà, je crois, cité plusieurs fois, je la recite ici parce que ça me vient à l'esprit à l'instant, que ça me semble être la bonne façon de procéder dans l'histoire de la vie de Saint Jean Berkmans, un saint belge, jésuite, donc, qui était un jeune garçon d'une école de jésuites, et le prêtre qui surveillait la récréation rassemble tous les enfants autour de lui avant la reprise des cours et leur demande, supposez que vous sachiez que vous allez mourir dans 5 minutes, comment utiliseriez-vous les 5 dernières minutes de votre vie? Et tous les enfants de l'école ont répondu la même chose. C'est peut-être ce que vous et moi nous aurions répondu. Ah, monsieur l'abbé, si je savais que j'avais plus que 5 minutes à vivre, ben, je me précipiterais au confessionnal pour me confesser avant de mourir. Et Saint Jean Berkmans, qui avait à l'époque, je ne sais plus quel âge il avait, 10 ans, 12 ans, n'avait pas donné de réponse. Donc le prêtre va lui demander, mais et vous, Jean, que pensez-vous? Et Jean a eu cette réponse extraordinaire. Il a dit, mon père, actuellement, c'est la récréation. Mon devoir d'état pendant la récréation, c'est de jouer. Donc si je savais qu'il me reste 5 minutes à vivre, eh bien j'utiliserai ces 5 minutes qui me restent pour ma vie à terminer mon jeu tranquillement. Bon, voilà, je pense que c'est là vraiment la bonne réponse à donner. C'est la réponse d'un saint qui sait qu'il est prêt à passer en jugement devant Dieu. Donc on ignore, encore une fois, là, j'insiste sur cette phrase de saint Thomas, qui précise bien qu'aucune révélation n'est faite à ce sujet, afin que tous les hommes se tiennent toujours prêts à paraître devant le souverain juge. On peut même aller plus loin que ça, en disant que dès qu'une apparition annonce une date précise pour la fin du monde, eh bien vous savez d'autorité que cette révélation, que cette apparition est fausse. Parce que le bon Dieu n'a pas voulu, justement, que les hommes sachent la date de la fin du monde. Alors avançons dans cette question 77, où je passe sur certains détails. Par exemple, saint Thomas se pose la question de savoir si la résurrection aura lieu pendant la nuit. Hein. Alors, il pense, mais c'est une opinion, ici en cela saint Grégoire, que puisque la résurrection du Christ est le modèle de la nôtre, et que la résurrection du Christ a lieu pendant la nuit de Pâques, eh bien vraisemblablement notre propre résurrection aura lieu la fin des temps également pendant la nuit. Mais ce n'est pas, encore une fois, de foi. Hein. Le Seigneur viendra comme un voleur, mais c'est pendant la nuit que celui-ci s'introduit dans les maisons. C'est donc aussi la nuit que le Christ viendra, qu'aura lieu la résurrection. C'est une opinion de saint Thomas. Alors avançons dans ce texte de saint Thomas. Ensuite, il se pose la question de savoir si la résurrection sera-t-elle instantanée. On imagine souvent, dès qu'on parle de résurrection générale, le jugement général, beaucoup de gens pensent que ça va durer des années et des années, parce qu'il y a des milliards de personnes qui vont devoir passer en jugement. Mais en fait, Dieu est Dieu, n'oubliez pas. Et pour Dieu, il n'y a pas de temps, donc ces choses, en fin de compte, se passeront en un clin d'œil. Et il cite saint Paul, nous ressusciterons tous en un instant, en un clin d'œil. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors le point de départ de cette résurrection, c'est évidemment la mort pour tous les hommes. Donc les pères sont partagés, d'ailleurs, dit saint Thomas, il reconnaît lui-même, les pères de l'Église sont partagés sur cette question, mais l'opinion la plus commune et la plus sûre, dit-il, c'est que tous les hommes mourront et ressusciteront après être morts. Donc, il donne les raisons, je vous les donne ici, c'est intéressant. Voilà ce que dit saint Thomas. Pourquoi pense-t-il que tous les hommes mourront et ressusciteront après la mort? Tout simplement parce qu'elle est plus conforme à la justice de Dieu qui a condamné la nature humaine tout entière en punition du péché d'Adam, dont tous les descendants contractent la souillure du péché originel et en conséquence doivent subir la mort. De même, cette résurrection générale après la mort de tous les hommes est plus conforme à la Sainte Écriture qui enseigne la résurrection universelle. Elle est plus conforme aussi aux lois naturelles qui nous montrent que les choses viciées et corrompues ne peuvent être régénérées qu'en passant par la mort. Alors, les hommes encore vivants à l'heure où le ciel s'arrêtera devront donc perdre la vie. Puis il y aura la résurrection générale et le jugement général. Voilà ce qu'affirme saint Thomas d'Aquin. Alors, nous avançons dans cette question, nous en sommes là à la question 78. Est-ce que tous les hommes, se posent comme question saint Thomas d'Aquin, est-ce que tous les hommes ressusciteront de leurs cendres? Bon, en fait, on a déjà vu un petit peu ça. Voilà ce que dit saint Thomas, c'est contre tous ceux qui naissent avec le péché originel qu'a été portée la sentence, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Or, tous ceux qui doivent ressusciter au dernier jour sont nés vivants ou morts-nés avec le péché originel, sauf la très sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, donc tous doivent ressusciter de leurs cendres. C'est ce que dit saint Thomas. Donc il ne faut pas oublier cette prière, tu es poussière et tu retourneras en poussière, c'est la prière que le prêtre dit en vous mettant les cendres sur le front, sur la tête, le mercredi des cendres, au premier jour du carême. Alors, on avance. Saint Thomas se pose la question, la question 78 du supplément, l'article 3. Est-ce que les cendres avec lesquelles le corps sera refait ont une inclination naturelle pour l'âme qui leur sera réunie? Bon. Donc, il n'existe aucune puissance naturelle, répond saint Thomas, capable de réunir des cendres à l'âme qui les animait. Donc, il n'y a pas en elle d'inclination naturelle pour cette âme. Saint Thomas a déjà expliqué que c'est en fait un miracle. Alors, saint Thomas dit que pour les cendres humaines, aucune inclination naturelle ressuscitée n'existe, mais simplement une loi providentielle en vertu de laquelle elles seront réunies à l'âme de préférence à d'autres éléments. Alors, nous passons à la question 79. Donc là, il y a des choses assez faciles, pour ça je vais assez vite. L'état des ressuscités, d'abord leur identité. Alors saint Thomas se pose la question de savoir si l'âme reprendra le même corps. Donc dans cette question 79, saint Thomas aborde l'état des ressuscités. Et dans quel état nos corps vont-ils ressusciter? Vous savez que saint Thomas et l'Église catholique ont toujours enseigné qu'il y a quatre privilèges des corps glorieux après la résurrection: l'impassibilité, la clarté, la subtilité et l'agilité. L'impassibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance. La clarté, c'est la lumière, la luminosité, la subtilité. C'est-à-dire que les corps glorieux peuvent passer à travers les murs. D'ailleurs, on le voit très bien dans la résurrection de notre Seigneur, comment notre Seigneur passe à travers les murs pour apparaître aux apôtres qui étaient calfeutrés à Jérusalem par peur des Juifs. Des Juifs qui avaient peur, donc ils étaient tout fermés. Et notre Seigneur passe après les murs pour leur apparaître. Et enfin, l'agilité, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer encore plus vite que la vitesse de la lumière d'un lieu à un autre. Voilà, voyons ce que dit un petit peu saint Thomas sur ce sujet-là. Donc, l'âme reprendra-t-elle le même corps? Oui, c'est la réponse est positive. C'est bien le même corps qui ressuscitera. Dans ma chair, dit Job, je verrai Dieu mon sauveur. Au dernier jour, je me relèverai de terre. Donc chaque âme va rejoindre le corps qu'elle a animé ici-bas, corps qui sera reconstitué miraculeusement après la destruction des corps. Tous les corps sont transformés en poussière, hein, sauf ceux qui sont encore vivants, juste au moment du jugement général, qui mourront pour ressusciter immédiatement après. Donc saint Thomas précise que du moment que l'âme raisonnable subsiste, aucune forme substantielle du corps humain ne tombe dans le néant. Quant aux formes accidentelles, elles peuvent varier sans compromettre l'identité foncière. C'est donc bien le même corps qui ressuscitera, puisque c'est la même matière qui sera réunie à la même âme, l'âme étant la forme du corps. Donc réunifiant l'âme et le corps va retrouver sa vie, puisque la vie est donnée par l'âme. Alors évidemment, après cette résurrection, l'homme sera de nouveau le même qu'il a été auparavant, mais avec ses privilèges des corps glorieux. Pour ceux qui sont au ciel, il n'y aura pas vraiment, résurrection, dit saint Thomas, si l'homme qui revit n'était pas le même. Nier cette identité est donc hérétique, parce que contraire à la vérité de l'Écriture qui enseigne la résurrection. Alors, si on constate que pour les corps glorieux, il y aura l'impassibilité, la clarté, la subtilité, l'agilité, eh bien, on voit bien que chez les damnés, c'est le contraire. Au lieu de l'impassibilité, il y aura une éternité de souffrance épouvantable avec la peine du dent et la peine des sens. Au lieu de la clarté, il y aura la nuit de l'enfer permanente, l'absence totale de lumière. Au lieu de la subtilité, il y aura au contraire la lourdeur de cette âme qui... Beaucoup de saints et de pères de l'Église pensent que telle qu'une âme tombe en enfer, telle elle reste dans sa position pour toute l'éternité. Et donc il n'y aura plus ni subtilité, ni agilité, ni clarté, ni impassibilité pour les âmes des damnés. Donc, alors cette âme va reprendre son corps. Et redonner donc une vie à l'âme, une vie au corps qui soit de nouveau animé par l'âme qui était celle qui l'avait animé pendant son temps sur la terre. Donc rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça, que donc certains pères se posent la question, donc ces pères se posent la question de savoir que puisque au moment de la résurrection, les corps sont des corps glorieux, au moins pour les élus du ciel. Comment l'âme peut-elle revenir donner une vie à ce corps, puisque cette âme est à la fois végétative, sensitive et raisonnable. Bon, évidemment que le corps à ce moment-là n'aura plus de vie végétative ni de vie sensitive au ciel, strictement parlant. Il n'y aura plus que le caractère raisonnable de l'âme est éliminé par non pas la foi, parce qu'il n'y aura plus de foi au ciel, il n'y a pas besoin de la foi au ciel, puisqu'on verra Dieu, mais par la gloire du ciel. Donc cependant, saint Thomas explique que l'âme sensitive demeure quand même substantiellement comme l'âme raisonnable elle-même, mais strictement parlant, puisque le corps aura le privilège des corps glorieux, donc il n'y aura plus les sens tels que nous les avons actuellement ici-bas. Bon, ce sont des points un petit peu difficiles, parce qu'il y a beaucoup de mystères dans ces choses-là. On ne sait pas exactement comment ça se passera. L'Église n'a pas la prétention de tout savoir. Il y a des mystères qui restent des mystères. L'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité restent des mystères. On peut étudier ces choses-là, mais il y a une partie mystérieuse qui demeure. Donc les cendres reprendront dans le corps humain ressuscité la place qu'elles y occupaient. Donc le corps miraculeusement sera de nouveau formé et animé par la même âme qui était avant. Donc la question de convenance rend plus probable le retour des mêmes parties matérielles à la place qu'elles occupaient, au moins quant aux parties essentielles et organiques. Alors à question 80, donc nous avançons, certainement parle de l'intégrité du corps ressuscité. Est-ce que tous les membres du corps humain ressusciteront-ils? Saint Thomas explique que la résurrection sera l'œuvre de Dieu, et donc l'homme en sortira donc parfait en tous ses membres. L'âme, dans ses relations avec le corps, n'est pas seulement cause formelle et finale, mais aussi cause efficiente. Bon, certains pères vont jusqu'à dire, possible, donc on n'est pas dans le renseignement précis là-dessus par la Sainte Écriture, par l'enseignement direct du Christ, beaucoup de pères pensent que les hommes ressusciteront avec un corps parfait, les élus du ciel, avec un corps parfait et à l'âge parfait. Et ils estiment que cet âge parfait, c'est l'âge de 33 ans, l'âge du Christ au moment de sa mort. Donc rien ne manque à l'homme ressuscité et qui ressuscite pour atteindre cette perfection suprême. Il faut donc que tous les membres qu'il possède ressuscitent avec lui. Donc si un corps humain était difforme ici-bas sur la terre, il ressuscitera avec un ordre parfait, avec une beauté parfaite. Donc, les organes corporels donc, se ressusciteront dans un ordre parfait comme une louange à la sagesse du Créateur lui-même. Alors, je passe sur certains détails. Saint Thomas pense que l'homme ressuscitera avec toutes ses perfections naturelles. Il ressuscitera donc avec toutes les parties de son corps, y compris, il donne comme exemple, les cheveux et les ongles. Donc le Christ est le modèle des ressuscités, or il est ressuscité avec son sang, autrement la transsubstantiation du vin en son sang n'aurait pas lieu sur nos autels. Le sang ressuscitera donc et pareillement les autres humeurs. Mais en même temps, le corps humain aura les quatre privilèges des corps glorieux. Je vous ai déjà cité ces quatre privilèges, l'impassibilité, la clarté, la subtilité, l'agilité. Alors comment toutes ces choses vont-elles pouvoir se grouper ensemble? Là, il y a une partie mystérieuse encore une fois. Donc je passe sur les détails de Saint Thomas. Encore une fois, je ne peux pas tout expliquer, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le but du cours. Et donc tout ce qui dans le corps fut vraiment humain ressuscitera. Pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Toute chose est vraie dans la mesure où elle est être. Une chose est vraie quand elle est en elle-même en acte, telle qu'elle est en celui qui la connaît. Donc le corps humain ressuscitera avec tout son être complet. Saint Thomas, un petit détail ici, dit que tout ce qu'il y a dans l'homme ressuscitera à considérer non pas la totalité matérielle, mais la totalité spécifique, caractérisée par la quantité, la figure, la place et l'ordre des parties. Comme les corps ressusciteront de façon parfaite, il y aura donc un ordre parfait dans la disposition des différents éléments des corps ressuscités. Alors, à la question 81, Saint Thomas se pose la question de la qualité des corps des ressuscités. Alors, voyons un petit peu ces questions. Donc, la question 81 du supplément, l'article 1er, se pose la question de savoir si tous les ressuscités auront le même âge, celui de la pleine jeunesse. Bon. Donc, il cite Saint Paul, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de l'âge parfait du Christ. Or, le Christ est ressuscité en pleine jeunesse, qui commence, dit Saint Augustin, vers la 30e année. Ce sera donc l'âge des ressuscités. » Donc, certains pères parlent même de l'âge parfait étant l'âge de 33 ans. Avant 33 ans, les petits jeunes, après 33 ans, commencent à vieillir sérieusement. Bon. La nature donc, est sujette à un double défaut, soit qu'elle n'est pas encore atteint son plus haut degré de perfection, comme chez les enfants, avant 33 ans, 30 ans, soit qu'elle l'est dépassée, comme chez les vieillards. La résurrection ramènera donc tous les hommes à la pleine jeunesse, à l'âge où finit la croissance, où commence le déclin. Donc ceux qui ont des problèmes physiques comme moi, les petits vieux comme moi, qui commencent à avoir mal au genou et mal au dos et mal un peu partout, eh bien nous ressusciterons avec un corps en parfait état de marche, rassurez-vous. ce qui rend la vieillesse digne de respect, c'est une note intéressante de saint Thomas d'Aquin qui dit ici, ce qui rend la vieillesse digne de respect, ce n'est pas l'état du corps qui a perdu sa perfection, mais la sagesse de l'âme qui est censée grandir avec les ans. Donc un vieillard est supposé être plus sage qu'une personne jeune. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce que nous devrions être. C'est ce que devraient être les vieillards. La question évidemment de savoir à quel âge commence la vieillesse, ça c'est pas explicité par les pères. Alors, il y a des détails qui semblent un peu superficiels. Mais saint Thomas va les découvrir. Il se pose la question de savoir, par exemple, si les ressuscités et ressuscités auraient tous la même taille. Et donc, il dit bien, la quantité naturelle dépend de la nature individuelle que la résurrection ne changera pas. Hein? Donc, tous les hommes ne ressusciteront donc pas avec la même quantité, mais chacun avec celle à laquelle l'aurait amené une croissance libre et normale. La puissance divine remédiera donc à l'excès ou au défaut. Notre corps sera parfait, mais en même temps, il y aura des différences encore entre les gens, parce que chaque âme est différente, chaque corps ressuscité sera aussi différent, ce côté-là. Donc, puis saint Thomas précise que cette diversité entre hommes et femmes, donc il y aura des hommes qui ressusciteront comme hommes, les femmes comme femmes, et cette diversité ira également réclamée par la perfection de l'espèce, mais la convoitise aura disparu, il n'y aura plus de concupiscence, et avec elle tout sentiment de honte. Donc au ciel, nous serons notre corps parfaitement glorieux, sera parfaitement soumis à l'âme, et l'âme soumise à Dieu. Quoi qu'il en soit de la nature individuelle, la nature prise dans son ensemble requiert l'un et l'autre sexe pour la perfection de l'espèce humaine, sans que d'ailleurs au ciel, l'un soit inférieur à l'autre. Donc il y aura en même temps, si vous voulez, une différence entre chaque âme, parce que chaque âme est différente. Donc chaque degré de gloire au ciel sera différent selon les personnes. Mais en même temps, il y aura, pour tous ces corps unis aux âmes, ces corps glorieux, il y aura une perfection qui sera générale pour tous ces corps. Donc, encore une fois, là, on touche à des grands mystères. Vous voyez qu'on voit très bien que saint Thomas d'Aquin ne croit pas à la théorie du genre, hein, qui précise bien les différences entre le sexe masculin et le sexe féminin. Mais c'est intéressant qu'il précise quand même qu'au ciel, il n'y aura pas d'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre. Ce qu'il dit exactement, je répète cette phrase. Quoi qu'il en soit de la nature individuelle, la nature prise dans son ensemble requiert l'un et l'autre sexe pour la perfection de l'espèce humaine, sans que, au ciel, l'un soit inférieur à l'autre. Et là, ça, c'est une grande consolation. Après la résurrection, donc, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Donc, de ce côté-là, il y aura des changements. Donc je passe encore une fois, je m'arrête simplement sur les phrases importantes, parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont un peu superficiels par rapport à notre étude. Les plaisirs spirituels, dit saint Thomas, sont délectables par eux-mêmes et désirables par eux-mêmes, et donc seuls exigés par la béatitude. Donc il n'y aura qu'au ciel, bien que nous aurons des corps unis aux âmes, et ces corps étant avec les privilèges des corps glorieux, les plaisirs au ciel ne seront plus que spirituels. Il n'y aura plus de plaisir physique, ce ne sera plus nécessaire. Contrairement à ce que dit l'islam, qui prétend que les plaisirs physiques et sexuels demeureront même décuplés au ciel, ce qui est complètement saugrenu. Alors, ensuite, saint Thomas va parler justement de l'état corporel des élus, en se posant sur question, d'accord, d'abord il va insister sur l'impassibilité, j'en ai déjà un peu parlé, donc je vais rapidement. Il cite saint Paul, que le corps des élus semé dans la corruption ressuscitera incorruptible, donc impassible, il n'y aura plus de souffrance au ciel. Donc il n'y aura plus de passion, si vous voulez, mouvement étranger à la nature même de l'être où il se produit. Le mouvement désordonné du cœur s'appelle une passion, mais il n'y aura plus de choses désordonnées au ciel, puisqu'il n'y aura plus de révolte entre la volonté propre et la volonté divine. Notre volonté propre sera entièrement immergée dans la volonté divine. Chez les élus, dit saint Thomas, l'âme sera complètement maîtresse du corps, sans que rien puisse lui enlever cette maîtrise, car elle-même sera soumise à Dieu d'une manière immuable, ce qui n'existerait pas dans l'état d'innocence. Dans le corps des élus, la matière gardera bien essentiellement la même puissance qu'aujourd'hui, à une forme différente, mais cette puissance sera liée par la victoire définitive de l'âme, les victoires de l'âme sur le corps, telle sorte qu'elle sera à jamais incapable de s'exercer. Donc il n'y aura plus de révolte du corps contre l'âme, heureusement d'ailleurs. Alors cette impassibilité sera en tous les élus. La récompense doit être proportionnelle au mérite, mais le mérite de certains élus est plus grand. Donc l'impassibilité, qui fait partie de la récompense générale de tous les élus, sera plus ou moins grande selon les élus. Mais il y aura toujours cette impassibilité, il y aura plus de souffrance au ciel. L'impassibilité sera plus grande chez certains élus, quoique chez tous, il n'y ait plus aucune passibilité, pas de souffrance. Cependant, la gloire de chaque âme sera différente. C'est évident que la gloire de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, par exemple, sera largement supérieure à la gloire d'un autre élu. Alors, dans la question 82 du supplément, l'article 3, saint Thomas, bizarrement, répond... à la question « L'impassibilité empêchera-t-elle l'activité des sens ?» Et il dit, c'est un peu spécial, un peu étonnant, il dit « Tout le monde admet une certaine activité des sens dans le corps des élus. » Mais donc je pense qu'il faut comprendre ce qu'il dit là, non pas comme une activité indépendante de l'âme, mais une activité totalement sous le contrôle de l'âme. Alors, d'ailleurs, il le précise un peu plus tard, encore une fois, c'est un autre exemple de ces passages de saint Thomas qui doivent être explicités avec ce qui suit. Donc voilà ce qu'il dit. Les impressions, pareille impression modifie la nature de l'organe qui la reçoit, car elle est reçue avec son être matériel. Il faut donc la refuser au corps des élus et admettre seulement l'impression immatérielle qui provoque l'activité des sens, mais sans modifier leur nature. Bon, j'avoue que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est pas très clair. Je comprends pas très bien ce que dit ici saint Thomas, j'avoue. Donc, il parle de l'activité des sens qui reconnaîtrait chez les élus, mais sans modifier leur nature. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ces activités sensibles, sont sous le total contrôle de la raison et de la foi. De l'intelligence et de la foi. Donc il n'y aura plus aucune révolte des sens contre l'âme. Il n'y aura plus, évidemment, les blessures de l'âme, les blessures des quatre puissances de l'âme. Il n'y aura plus du tout ces blessures qui nous font tellement de mal, comme l'ignorance, comme la concupiscence, la faiblesse ou la malice. Alors, saint Thomas insiste après, en fait, c'est des questions qui ne sont pas très faciles à comprendre. Donc, en supplément, question 82, article 4, il se pose la question de savoir si tous les sens des élus exerceront leurs fonctions. Donc, il répond que les sens... il dit, une puissance est plus parfaite quand elle est en acte. Les sens le seront donc en acte chez les élus, dont la perfection sera suprême. Les puissances sensitives sont plus rapprochées de l'âme que le corps, or celui-ci sera récompensé ou puni pour les damnés selon que l'âme l'aura mérité. Tous les sens seront donc aussi et jouiront chez les élus et souffriront chez les damnés. C'est-à-dire que puisque nous avons péché avec nos cinq sens, il y aura une glorification des sens au ciel et une souffrance épouvantable sur les cinq sens pour les damnés. Donc, les sens permettront une jouissance extraordinaire chez les élus et une souffrance extraordinaire chez les damnés, mais il ne faut pas oublier, pour comprendre ce texte de saint Thomas, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit auparavant, que les plaisirs du ciel ne sont pas des plaisirs physiques sensibles, mais des plaisirs spirituels. Donc, il faut mettre tous ces passages ensemble pour arriver à les comprendre. Sinon, on dit, J'ai vite fait dire des bêtises sur ce sujet. Alors, on avance dans ces questions de saint Thomas. N'oublions pas aussi, on voit très bien là, c'est certainement dans ces passages-là qu'on voit que ces articles donc, n'ont pas été révisés par saint Thomas avant sa mort. Ce sont des articles de Genèse de saint Thomas qui ont été recomposés à partir des textes de Genèse de saint Thomas par le secrétaire de saint Thomas après la mort de ce dernier. On sent très bien là qu'il y a l'équilibre qu'on trouve dans la somme théologique. Donc dans ces parties qui ont été écrites par saint Thomas, mais qui ont été composées au début de la vie et d'études de saint Thomas, sont pas aussi claires que les grands articles de la somme théologique, surtout de la Tertia Pars. Alors saint Thomas après va parler de la subtilité, c'est la question 83. Donc il se pose la question de savoir si cette subtilité est une propriété des corps glorieux. Bon, je vous ai déjà répondu affirmativement avec saint Paul, semé comme corps animal, le corps animal ressuscite corps spirituel. Il faut donc attribuer, dit saint Thomas, au corps glorieux une autre espèce de subtilité, celle qui résulte de la perfection achevée du corps humain. Mais strictement parlant, cette subtilité permet au corps glorieux de passer à travers les corps sensibles, à travers les murs par exemple. Donc saint Thomas explique, la seule et véritable explication, c'est que cette perfection corporelle que nous appelons la subtilité, résultera du domaine de l'âme glorifiée sur le corps, dont elle est la forme, domaine tel que le corps glorieux pourrait être dit spirituel, c'est-à-dire entièrement soumis à l'esprit. Donc le corps est d'abord soumis à l'âme, comme la matière l'est à la forme, pour participer à l'être spécifique, à l'être humain. Il lui est soumis ensuite, comme le mobile l'est à celui qui le meut, pour aider l'âme dans ses opérations. Et la spiritualité du corps glorieux a donc pour premier effet la subtilité, puis l'agilité et les autres prérogatives. Là, il fait allusion, donc, encore une fois, aux quatre privilèges des corps glorieux, l'impassibilité, la clarté, la subtilité et l'agilité. Alors, saint Thomas va expliquer un petit peu les détails. Question 83 du supplément, article 2. La subtilité permet-elle au corps glorieux d'être dans un lieu occupé déjà par un corps non glorieux? Donc, par exemple, un mur. Est-ce qu'on peut passer? Un corps glorieux peut passer après un mur, c'est ce qu'il veut dire. Alors, voilà les détails qu'il va donner. Alors, d'abord, il rappelle un principe de philosophie, il est impossible à deux corps quelconques d'occuper le même lieu. C'est valable pour tous les corps. Mais ensuite, encore une fois, c'est parti. Encore un exemple de ces passages de saint Thomas qu'il faut lire à la lumière de ce qui suit. Et puis, dans la fin de l'article, il va dire la chose suivante. La subtilité n'enlève point au corps glorieux ses dimensions, ni par conséquent la nécessité d'avoir son lieu distinct de celui de tout autre corps. Bon, ensuite il précise. Elle ne lui permet donc pas d'être dans un lieu occupé déjà par un autre corps. Mais, voilà la phrase importante, la puissance divine peut opérer ce miracle et lui accorder ce privilège comme un surcroît de gloire. De même qu'elle accorda par exemple à Saint-Pierre le privilège de guérir les malades par sa seule présence en confirmation de la foi du Christ. C'est pour ça que les corps glorieux peuvent, à cause de ce privilège de la subtilité, passer à travers les murs. Mais c'était encore une fois un miracle. Alors, nous sommes à la question 83 du supplément, l'article 3. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, il rappelle justement que deux corps peuvent par miracle occuper le même lieu, et il montre comme exemple l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que je vous ai déjà cité. Jésus entrant dans le cénacle apparut à ses disciples, les portes étant fermées. malgré le fait qu'en philosophie on dit qu'à deux corps il faut deux lieux, parce que la pluralité de matière exige la pluralité de localisation. Mais encore une fois, Dieu peut faire un miracle. Donc il peut arriver, c'est la conclusion de saint Thomas, il peut arriver par miracle que deux corps occupent le même lieu. Donc il va répéter la même chose à la fin de cet article en disant « Il est possible par miracle que deux corps soient dans le même lieu. » Et il va donner comme un peu de façon, encore une fois, de façon miraculeuse, il va donner comme explication miraculeuse ce qui se passe avec la Sainte Eucharistie, en disant que le corps du Christ qui est dans l'hostie n'y est pas localisé. Il est impossible, dit-il, même par miracle, qu'un corps soit localisé en plusieurs lieux. Donc il donne comme exemple, le corps du Christ est dans l'hostie mais sans y être localisé. Cependant, juste après, il dit, il est possible par miracle que deux corps soient dans le même lieu. J'avoue que, encore une fois, c'est parti de ces textes qui sont, à mon avis, pas très clairs. Et il faudrait voir un petit peu ce que disent les commentateurs sur ces passages-là. Parce que ce ne sont pas des passages très clairs. Là, on voit très bien, encore une fois, que ce n'est pas, si vous voulez, des grands passages de saint Thomas. Il n'y a pas la clarté qu'il y avait dans les autres passages, surtout de la Tertia Pars. Saint Thomas ensuite précise, quoiqu'un esprit et un corps puissent occuper le même lieu, deux esprits ne le peuvent pas. Donc deux corps glorieux ne le peuvent pas davantage. Ça, il y a un aspect, on voit que dans surtout la dernière partie du supplément, il y a un petit caractère brouillon qui vient du fait que lorsque le secrétaire de saint Thomas, Réginald, a préparé ces textes, donc il est allé prendre des textes un peu partout, surtout dans le commentaire des sentences. Et donc il a remis ensemble des textes qui étaient en fait séparés dans les sentences. Alors, voyons l'article 5 de la question 83. Donc, saint Thomas précise que le corps glorieux sera dans un lieu et occupera donc un lieu égal à lui-même. Il suit là la position d'Aristote. Mais il répète toujours la même chose à la fin de l'article, qu'un miracle ne serait réalisé cela tout le temps. Donc, il faut conclure que le corps glorieux occupera toujours un lieu égal à lui-même. Alors, est-ce que la subtilité rend le corps palpable, le corps glorieux palpable? Est-ce qu'on peut toucher un corps glorieux? Donc, le corps du Christ, dit-il comme réponse, ressuscité, était glorieux, mais en même temps palpable. Comme il le disait à ses disciples, pour les convaincre qu'il n'était pas un fantôme, qu'il n'a ni chair ni os. C'est pour ça que notre Seigneur, après sa résurrection, a demandé à ses apôtres de le toucher. Il a même mangé devant eux, il a demandé à saint Thomas de mettre son doigt dans les plaies des mains, des pieds et du côté. Donc il était tout à la fois palpable et impalpable, miraculeusement. Et donc on voit bien encore une fois que toutes ces caractéristiques, sont en fin de compte des caractéristiques miraculeuses. Alors, je vais arrêter là pour ce cours. Nous en sommes à la question 84 sur l'agilité des corps des élus. Donc, vous voyez que saint Thomas va expliquer rapidement l'ensemble, les quatre privilèges des corps glorieux. Donc là, il va, à la question 84, il va parler de l'agilité. Nous verrons ça, si Dieu veut, au prochain cours. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Bénis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.